Bonjour à tous. Bon début de semaine sous le soleil. Nous allons parler de plein de choses encore ce matin. En deuxième heure d'émission, on va se demander si nos jeunes sont pas un petit peu trop dépendants aux réseaux sociaux. Vous avez vu la semaine dernière dans les journaux, on apprenait entre autres parce que l'enquête est sortie. C'est une enquête inédite de la santé publique de Montréal qui nous expliquait en fait que parmi les jeunes Montréalais de 11 à 12 ans, c'est quand même sixième année du primaire, il y en avait presque un sur deux qui passait plus de deux heures par jour devant un écran quelconque, soit son cellulaire ou la télévision. C'est beaucoup, beaucoup d'heures, finalement, au bout de la semaine. Et j'ai vu des cas dernièrement de jeunes qui étaient tellement, tellement influencés par la techno qui vivent ça très, très, très mal. Puis quand on dit très mal, là, carrément jusqu'à vivre des dépressions. Alors, on va en parler tout à l'heure avec des spécialistes. Puis j'ai hâte d'entendre vos commentaires à vous parce qu'on a tous des jeunes autour de nous. Puis je veux vous demander, vous, les jeunes que vous voyez, là, avez-vous l'impression qu'ils sont trop, trop pris là-dedans puis que finalement, ça a un impact sur leur santé mentale? On va également recevoir l'entrepreneur et dragon Étienne Borgeant en deuxième heure d'émission. Mais en première heure, je vous propose de discuter un peu de la situation des réfugiés illégaux qui continuent de passer la frontière au Québec. En fin de semaine, ça a continué de rentrer. Peut-être un peu moins que ce à quoi on aurait pu s'y attendre. Mais le beau temps a surpris tout le monde. Alors là, bien sûr qu'au cours des prochaines semaines et des prochains mois, ce que disent les douaniers, en tout cas, c'est que l'été devrait être infernal. Avec nous, justement, le président national du syndicat des douanes et de l'immigration, Jean-Pierre Fortin. Merci, Jean-Pierre, d'être là.
Ah, ça fait plaisir.
Une cinquantaine de personnes en fin de semaine sont passées par le chemin Roxham, apparemment, au moins.
Oui, ça a été un peu plus tranquille en fin de semaine. Est-ce que c'est l'accalmie avant la tempête? Moi, je dirais que oui. Si on regarde toute la question depuis Pâques dernier, on regarde cette moyenne-là, chose certaine, on a oscillé près des 200 par jour pendant au-dessus d'un mois et demi. Donc, c'est quand même sérieux. Là, on parle d'un nombre là, considérable qui continue à utiliser cette voie-là pour rentrer au pays.
Oui, comme si le message passe pas, parce qu'on a même envoyé des dignitaires du gouvernement fédéral dans certains pays pour leur dire « venez pas, ça sera pas facile de vous accueillir ». Maître Stéphane Enfield est avocat en immigration. Bonjour, Maître Enfield.
Bonjour, Isabelle.
On dirait que le message passe pas. En tout cas, il semble pas être entendu par les passeurs et ceux qui les suivent.
Effectivement, on a beau envoyer le ministre de l'immigration du côté du Nigeria, ça ne change pas la situation qu'on vit présentement et qu'on vit depuis plus d'un an au chemin Roxham. Alors, il y a des décisions qui doivent être prises. Malheureusement, le gouvernement à Ottawa ne semble pas écouter les gens qui travaillent sur le terrain et qui demandent justement plus de ressources et qui demandent également que cette entente sur les tiers pays sûrs soit suspendue, justement pour éviter que des gens soient forcés de franchir de façon irrégulière la frontière canadienne pour demander le statut de réfugié au Canada.
Ouais. Bon, on dit immigrants, réfugiés. J'écris ce matin dans le Journal de Montréal qu'on sait pas trop comment on les appelle, mais peu importe comment on les appelle, on refuse un peu de dire ce que c'est. C'est clair que c'est une immigration illégale, même s'il y a des politiciens encore la semaine dernière. J'entendais Denis Coderre sur nos ondes à la commission Coderre du Mont qui nous disait non, il ne s'agit pas de réfugiés, il ne s'agit pas d'immigrants illégaux. Comment vous voyez ça, François Audet? Vous êtes directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal de l'UQAM, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Est-ce qu'on parle bien d'immigrants illégaux ici?
Ben, en fait, l'entrée...
Je parle à chicane un matin encore.
Oui, tout à fait. Puis on m'a invité pour ça, j'imagine. Oui. Mais je pense qu'on parle d'une entrée irrégulière au pays. La migration terrestre n'est pas illégale parce que depuis justement, notamment la Deuxième Guerre mondiale, où une grande partie de l'Occident s'est construit sous des pressions de vagues migratoires énormes, on a réalisé qu'on ne pouvait pas, avec les conventions de Genève qu'on a signées, qu'on ne peut pas refouler une personne à la frontière si sa sécurité dans son pays est menacée. Donc, ce faisant, les personnes qui veulent entrer au pays de cette manière-là ont le droit de le faire. C'est irrégulier, donc on les intercepte et en fait, ils se font volontairement intercepter. Ils se dirigent vers ce chemin-là expressément pour se faire intercepter et demander un statut d'asile politique. Alors, ce ne sont pas des criminels, mais ce sont des gens qui quittent. Et là, toute la démarche est davantage à savoir est-ce qu'ils quittent vraiment une situation de danger sur leur sécurité? Est-ce que le Canada a la capacité absorber et combien de personnes de plus. Ça, c'est un autre débat. Mais pour un individu, une famille qui franchit la frontière ici, ce n'est pas un acte criminel de le faire, mais bien irrégulière. Alors, la nature des mots est quand même importante parce que souvent, ça trahit des réalités quand même assez dramatiques. Et j'ai l'impression parfois qu'on identifie des personnes comme étant des criminels alors qu'elles ne le sont pas. Donc, il faut... Je me permets quand même de faire un petit
mais là, vous poussez plus loin le mot parce que dire illégal, c'est pas forcément un crime non plus. Mais quand on est dans l'illégalité, est-ce qu'on est un criminel? Pas forcément, là. Là, vous le mettez si une coche plus loin, là, maître Anfield.
Si on dit qu'on commet un geste illégal, ça veut dire qu'il y a une conséquence à ce geste illégal. Et dans le cas d'une personne qui franchit de façon irrégulière la frontière canadienne pour demander le statut de réfugié, la Convention prévoit qu'il n'y aura pas de sanctions pénale contre cette personne. Alors, si on disait que c'était un geste illégal, ben la personne serait arrêtée, serait accusée et serait jugée pour le geste illégal qu'elle a commis. Alors, et je suis d'accord avec votre invité qu'il s'agit d'une entrée irrégulière et la convention est claire, il n'y aura pas de sanction. C'est le même principe qui s'applique pour une personne qui utilise un faux passeport dans le but d'arriver au Canada pour demander le statut de réfugié. Évidemment, si vous et moi utilisons un faux passeport pour voyager, la situation serait autre. Mais lorsqu'on le fait dans le but de demander la protection d'un pays, il n'y a pas de sanction.
Ouais, moi, je peux vous dire, mon passeport a déjà été... Il était encore valide, mais j'avais 2 mois et non pas 3, je pense, pour pouvoir revenir... Les Américains m'ont pas laissé passer, là. Il n'y a pas de niaisage, là. Donc, après, on peut... Moi, j'essaie de regarder la situation. Je connais beaucoup d'immigrants, là. Beaucoup, beaucoup d'immigrants qui, en ce moment même, n'ont toujours pas soit leur permis, ce qu'ils appellent le PR, là, le permis de résident permanent.
De résident permanent.
Ouais. Soit carrément une citoyenneté canadienne après avoir passé 10 ans ici. Je connais des jeunes aussi qui ont dû attendre des mois et des mois avant d'avoir un permis de travail. J'ai une amie qui vient d'épouser un Français. Ils attendent un bébé. Il est toujours sur un visa de touriste parce que même s'ils se sont mariés il y a un an, il n'a jamais eu encore ses papiers, ni d'appel comme quoi, monsieur, attendez, bougez pas, on vous envoie vos papiers. Mais le monde, ça rentre à la frontière par une brèche. Personne n'est capable de colmater ça. Puis on dit, ce ne sont pas des illégaux. Moi, expliquez-moi comment on peut justifier ça aux autres immigrants qui font la queue, qui payent des milliers de dollars des immigrants d'immigration, hein, comme maître Anfield, qui sont patients, à qui on dit « t'as pas le droit d'aller dans ton pays là, pendant 3 ans si tu veux pouvoir avoir ta citoyenneté canadienne ». J'ai une amie philippine, c'est ça, là. Elle, malheureusement, pour elle, elle retourne voir sa famille tous les 2 ans. Là, avant, c'était 2 ans. Maintenant, ils viennent de changer ça à 3 ans. Tu peux plus aller avant 3 ans revoir ta famille. Ça fait 10 ans qu'elle peut pas être canadienne à cause d'une règle, à mon avis, qui est purement aléatoire. Après ça, expliquer à tous ces gens que je viens de nommer, puis j'en ai oublié plein, là, comment ça se fait que Roxham est devenu un droit de passage légal.
Puis pire que ça...
Monsieur Fortin, c'est, je sais pas, là, moi, je...
C'est ce qu'on sent pas apprendre par ce qui s'est passé l'été dernier. C'est ça, moi, qui me renverse. La semaine passée, à pareille heure, j'étais à conférence de presse où il y avait 3 ministres, le ministre Godel, le ministre de l'Immigration également, Marc Garneau, et on n'a toujours pas une vision vers où ce qu'on va aller. On marche à tâtons, on n'a pas appris. C'est pour ça que vos amis attendent pour leur fameux papier, parce que le système vit les conséquences de ce qui s'est passé l'été dernier. Et on n'a pas... moi, je m'attendais, malheureusement, la semaine dernière, à un plan d'action qui aurait été concret, un ajout de ressources. On a ajouté des ressources, là, je sais que sur le côté de Maître Anfield, on a augmenté le nombre de commissaires qui va siéger. Mais encore une fois, le temps de former ces gens-là, le temps des engagés, ils vont être prêts à travailler quand?
Ouais.
Septembre, octobre?
Maître Anfield, là-dessus, oui.
Je peux faire une précision. C'est l'exemple que vous venez d'énoncer, Isabelle, c'est deux systèmes complètement différents. Lorsqu'on parle du chemin Roxham, on parle d'individus qui sollicitent l'asile. Et ils n'emprunteront pas le même créneau, si vous voulez, au sein du ministère pour être entendus.
Je sais, maître Anfield.
Par la commission d'immigration. Ouais. Alors que tous les autres immigrants, ceux qui font des demandes de travailleurs qualifiés, de réunification familiale, ce sont Immigration et Réfugiés Canada qui doivent traiter ces dossiers-là. Alors, un n'a pas d'incidence sur l'autre.
Je comprends ça. Je comprends les deux systèmes.
Non, Il doit y avoir des décisions qui doivent être prises. Et je le dis au même titre que Jean-Pierre depuis déjà plus d'un an, que des décisions doivent être prises concernant le chemin Roxham. Le gouvernement ne semble pas les prendre. Mais je veux pas non plus qu'on mélange les deux systèmes. C'est deux systèmes complètement différents.
Oui, à partir du moment où c'est effectivement des réfugiés qui viennent. Voilà. Dans le cas des Nigériens.
Et avec les mêmes employés en bonne partie. Ouais. Parce que ce que je veux dire...
Ah oui, les deux systèmes sont gérés par les mêmes personnes, ça vous dites,
oui,
Jean-Pierre?
Oui, c'est parce que présentement, c'est les personnes qui vont émettre les permis. Parce que présentement, ce qui se passe, là, à Montréal, à Vegreville, on est tellement embourbé, c'est qu'on a un nouveau phénomène qui s'appelle le tour du poteau. C'est-à-dire que les personnes qui vivent ou qui arrivent à échéance de leur permis, étudiants, permis de séjour, visiteurs et tout... pour renouveler le permis, pour ne pas être dans l'illégalité, ces gens-là vont se présenter à la douane américaine, sachant qu'ils vont se faire refuser parce qu'ils ne sont pas sous un statut du côté canadien. Ils vont retourner la frontière avec les papiers comme quoi qui ont été refusés aux États-Unis. Et maintenant, c'est ce phénomène-là qu'on voit. On est obligé, nous, à la frontière, de faire ces permis-là parce que Montréal est tellement embourbé. Donc, c'est pour ça que je parle que, oui, Stéphane a raison. C'est deux systèmes parallèles, mais souvent avec les mêmes employés qui donnent le service-là.
Oui, ouais, effectivement.
Pour agir un peu sur votre point, Mme Maréchal, sur les deux clientèles ou les deux types de population, il y en a une, effectivement, où l'immigration est faite sur des perspectives économiques de notre propre intérêt comme pays à recevoir des gens qui répondent à des besoins économiques, sociaux, etc. L'autre population ne sont pas issus de cette même communauté-là, non plus des mêmes pays ni même contexte. On parle de gens qui fuient la guerre, qui fuient des contextes, évidemment, de violation de leurs droits, où ils sont menacés.
Mais ça, on comprend ça. Est-ce que c'est toujours le cas?
Ben, écoutez, juste pour vous donner une idée...
Comment ça se fait qu'on nous dit que 90... J'ai vu ça l'autre 90. Jour. 90 % M. Fortin, c'est vrai?
Oui, c'est le ministre. C'est le ministre
90 % des... 90
pour...
Oui.
Mais attendez, je veux juste redire qu'est-ce qu'on a dit, puis après ça, on dira pourquoi il faut faire attention. 90 % des gens qui viennent par Roxham ou qui demandent un statut de réfugié sont virés de bord parce qu'on finalement, on estime que ce ne sont pas des réfugiés. Ouais. Maître Enfield, vous n'êtes pas d'accord avec cette évaluation?
Non, mais pas du tout, parce que, un, c'est pas le ministre qui va décider qui doit être reconnu comme réfugié ou non, le tribunal, les cas comme ça d'immigration, et d'autre part, souvenez-vous, Isabelle, il y a environ un an, on a sorti le même taux de refus pour les Haïtiens, et on a gratté un peu pour savoir sur quoi on se basait pour dire que 90 % des dossiers étaient refusés. On avait utilisé, en fait, on avait analysé 235 dossiers sur plus de 6 000. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il faut faire attention.
C'était pas un sondage très exhaustif. Grosse marge d'erreur, ça, vous voulez dire. Quand un réfugié se présente ici au Canada puis dit, voilà, si je suis dans mon pays, on risque de me tuer. Moi, je comprends, puis il n'y a pas de problème. Je ne débat pas de la question, est-ce que les gens ont le droit de venir se réfugier au Canada? Oui, c'est clair. C'est après, là, ça devient... Il faut quand même essayer d'être juste. Et ma question, je la repose, c'est comment peut-on justifier aujourd'hui ce double système qui, à mes yeux, puis aux yeux de beaucoup d'immigrants qui le vivent, comment peut-on justifier ce système-là? Quand on a l'impression, finalement... Moi, j'ai dit à du monde dernièrement, va à Roxham, ça va être pas mal plus vite, ton affaire. Mmh. Au pire, parce que ça n'a juste pas de bon sens. Il y avait le cas d'un Haïtien dernièrement. Je l'ai vu au Nouvelle TVA encore, il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez le trouver sur Internet et sur le site de TVA. C'est un jeune Haïtien. Lui, là, il n'était pas menacé là, de nulle part. Lui, il veut juste avoir une vie meilleure. Puis on lui a dit qu'au Québec, c'était possible. Mmh. Il y a eu un permis de travail en moins de 3 mois. Puis, il parle français, c'est probablement une super bonne personne, puis tant mieux, c'est probablement un bon immigrant. Mais pourquoi il est passé par là? Pourquoi n'a-t-il pas dû suivre, comme les autres, le processus d'immigration?
Ouais. Ben, je me... Écoute,
c'est juste ça que je pose comme question.
C'est une excellente question.
C'est pas un jugement, là.
Non, mais c'est bien de la poser. Je voudrais, par contre, juste mettre le contexte international on n'a jamais vécu ça auparavant parce que le problème migratoire terrestre n'a jamais été un enjeu. Mais la question que vous posez là est le reflet de ce que l'Europe vit depuis les dernières années. De 97 à 2000, 2017. Il y avait 33 millions de personnes qui ont été déplacées dans le monde pour la guerre. Il y en a maintenant 66 millions en 2017. Et seulement en 2016, il y en a 3 millions de plus seulement en 2016. Alors, tout ça pour vous dire que le phénomène migratoire auquel on est un peu confronté au Canada, c'est rien par rapport à ce que l'Europe a vécu. Et c'est ce qu'on discutait aussi avant l'entretien tout à l'heure, c'est rien par rapport à ce qui s'en vient. C'est-à-dire que c'est un phénomène...
Et l'Europe, on s'entend-tu, François, pour dire que les Européens le gèrent très mal?
Ben, disons qu'ils ont des leçons apprises. Ils l'ont mal géré un certain temps. Il y a encore...
On pense à l'Allemagne, qu'on passe à la France.
On est d'accord. Mais là, je reviens un peu sur ce que M. Fortin disait tout à l'heure, c'est que la manière dont le Canada, et là, je réponds à votre question un petit peu plus maintenant sur les deux canaux, c'est que j'ai l'impression que le Canada ne prend pas les leçons apprises, justement, de l'Europe, parce que c'est pas la première fois qu'il y a un problème migratoire sur la planète, et savez-vous quoi, c'est pas la dernière non plus, parce que l'année prochaine, on va encore parler.
Toute la crise des sans-papiers en France, là.
Ben voilà. Non, mais tout ça, ça va continuer. Mmh. Alors, si dès maintenant, on n'est pas capable d'avoir une vision et un dialogue social, parce qu'il faut qu'il y ait un consensus à savoir, effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec le phénomène qui arrive à nos frontières.
Et qu'on mette des ressources. Voilà. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Maître Anne-Phil, vous restez avec nous. On revient tout de suite après la pause. 514-790-9850. Ça en ferait partout au Québec. Vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Je pose la question. Est-ce que vous savez, vous avez des suggestions? Qu'est-ce qu'on va faire avec le flot de réfugiés illégaux qui passent par la frontière au Québec, frontière canadienne, mais chemin Roxham qui est sur le territoire du Québec? Les douaniers demandent plus de ressources, ils n'en ont pas. Le Québec demande plus d'argent, le Ottawa gagne du temps. Bref, on dirait qu'on a de la misère, on garoche la patate chaude, personne ne sait quoi faire. Jean-François Lisée avait suggéré, lui, de mettre peut-être une barrière, quelque chose, mais quoi? Une haie de cèdre! Si on avait fini par mettre une haie de cèdre, un petit parterre de fleurs, quelque chose, une pancarte, n'importe quoi. Vous, comment vous voyez ça? À tout de suite. On se demande, qu'est-ce qu'on peut faire avec le flot de réfugiés qui passe la frontière au Québec par le chemin Roxham? Tout le monde en a entendu parler maintenant. Bonjour Lily, avez-vous une opinion là-dessus?
Eh boy, oui, j'ai une opinion. Écoutez, surtout moi, ce qui me dérange infiniment, c'est que ces gens-là qui arrivent, ils sont arrivés en avion, ils ont payé leur avion, ils avaient des maisons, ils se nourrissaient. Comment ça se fait que quand ils arrivent, ils ont plus de sous, puis c'est nous qui devons les faire vivre? Ça, c'est le gros problème. Puis là, on met nos enfants, nos petits-enfants dans les dettes pour des décennies à venir. Comment ça se fait que ces gens-là pouvaient vivre avant, puis ils arrivent chez nous, puis pouf, sans le sou?
C'est une question auxquelles qui voudrait répondre de mes invités? François Audet, peut-être, de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire?
Oui, ben écoutez, il y a déjà...
Beaucoup de Québécois se posent la question.
Oui, et à raison. Il y a probablement des cas de figure qui sont justifiés d'être vus de cette manière-là. Par contre, quand on discutait pendant la pause que depuis cette année, 90% des gens qui arrivent ici arrivent du Nigeria. Donc, c'est évidemment un pays qui est en crise, en conflit important, etc. Certaines parties, en tout cas du Nigeria, du moins, la population est vraiment en danger. Donc, ils sont justifiés de faire le chemin et d'essayer de trouver un avenir meilleur. C'est pas des gens qui vivaient aux États-Unis comme d'autres populations, par exemple. On parlait tout à l'heure des Salvadoriens ou d'autres populations qui sont résidents temporaires aux États-Unis, ont un certain moyen. Et très souvent, en fait, pour répondre à la question particulière de madame, c'est qu'ils prennent toutes leurs petites économies pour faire le chemin et arriver ici. Ils donnent tout aux passeurs, hein, donc toute cette espèce de phénomène transitoire. Il ne faut pas oublier que les gens qui arrivent notamment du Nigeria et de certains pays d'Afrique arrivent par le Chili, parce que c'est un pays qui demande pas de visa. Et le Chili, là, regardez la carte, là, c'est à l'autre bout des Amériques. Ils franchissent pratiquement à pied très souvent ou en autobus le chemin jusqu'au Canada. Alors, c'est pas, ils font pas ça en tourisme. Hein?
Non. Puis nous, on le voit. Là, ces personnes-là vont arriver avec une valise et demie. Donc, c'est pas des millionnaires. Là, on s'entend là, pour dire est-ce qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Certains ont de l'argent en rentrant au pays.
Ils parlent quelle langue?
Ils parlent leur langue, le Nigeria.
Ouais. Comment vous faites pour parler avec eux?
On est des interprètes, souvent. Ouais, on fait affaire. Mais de là, la complexité aussi. Mm. Quand on parle à travers des interprètes, c'est pas aussi direct.
Non, tout à fait. On comprend que le problème, c'est beaucoup les passeurs. Là. Il va falloir faire quelque chose aussi déjà pour mettre la main sur ces gens-là qui profitent d'une situation de vulnérabilité.
Oui, mais c'est une économie qui dessert les pays aussi, parce que s'il n'y avait pas les passeurs aux États-Unis, ben les réfugiés, les migrants resteraient aux États-Unis. Donc, jusqu'à un certain point...
C'est pour ça que les Américains laissent faire.
Ben, bien voyager. Et c'est ce phénomène qu'on a vu en Europe aussi, en Italie et en Grèce pendant le début du problème migratoire. On avait vu que les autorités italiennes, notamment, laissaient faire les passeurs pour s'assurer que les migrants continuent vers le nord de l'Europe.
Vous me disiez, M. Fortin. Oui, allez-y, Maître Enfield. Oui, tout à fait.
Et Jean-Pierre pourrait le confirmer. Vous dites, bon, les Américains laissent faire. Non seulement qu'ils laissent faire, mais il y a eu des cas où les US Border Patrol reconduisaient à bord de leur véhicule des demandeurs d'asile qui voulaient franchir le chemin Roxham. Alors, non seulement ils laissent faire,
mais... Votre collègue de l'Italie aurait filmé ça. Ouais.
Exactement, ils s'en débarrassent.
Mais oui, mais là, on continue, on fait quoi, nous? On regarde ça, puis...
Isabelle, le chemin Roxham, l'entente sur le tiers-pays sûr, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui ont franchi de façon irrégulière la frontière canadienne pour demander la protection. Ce qu'on voit au cours de la dernière année et demie, c'est le nombre de personnes qui franchissent de cette façon la frontière canadienne. Et c'est plutôt ça qui choque la population canadienne. C'est que le message qu'on envoie à l'international, c'est que la frontière entre le Québec et les États-Unis n'existe plus.
C'est une passoire. C'est même plus une passoire. Une passoire, ça a des petits trous. Là, c'est carrément...
Il est là, le problème. C'est pas tant le nombre, c'est la façon que les gens passent maintenant. Alors, il faut revenir, à mon avis, à avant décembre 2004, avant l'entrée en vigueur de l'entente sur les tiers pays sûrs. Si on suspend, et on peut le faire, l'entente le prévoit, l'article 10 est clair, par simple avis écrit du Canada aux Américains, on suspend pour 3 mois l'entente. Les gens n'auraient plus aucun intérêt à franchir la frontière canadienne de façon irrégulière. Ils se présenteraient à un poste frontalier. Ils seraient pris en charge immédiatement par les autorités canadiennes. On augmente les ressources parce que de toute façon, peu importe la décision qu'on prendra, il faut augmenter les ressources. Ça prend plus d'agents, ça prend plus de commissaires et on peut même aller plus loin. Éventuellement, tous ces gens-là auront un recours devant la Cour fédérale. Alors, ça prendra des avocats aussi à Justice Canada pour pouvoir représenter ces dossiers-là devant la Cour fédérale.
Mais Stéphane, ce que vous dites, c'est que les gens passent, au lieu de passer par le chemin, la brèche ouverte, ils seraient obligés de passer par la douane, mais on serait quand même...
Par les ambassades.
On serait obligé quand même de les prendre. On serait quand même obligé de les accepter.
Donc, ça
changerait quoi?
Ben, ça changerait que les gens ne seraient plus... Si on parle des Salvadoriens ou des Honduriens qui vont voir leur permis de séjour temporaire venir à échéance, ils n'auront pas à franchir les États-Unis de l'ouest en est pour passer au Québec parce qu'ils voient que c'est la seule façon de le faire. Ils se présenteront à un poste frontalier en Colombie-Britannique, en Ontario, comme ça se faisait avant. Et donc, la pression sur le système au Québec serait répartie sur l'ensemble du territoire canadien.
Alors, pourquoi on ne fait pas ça, si ça semble... Parce que moi, ça m'apparaît être une solution tout à fait viable.
Moi, j'ai un doute sur cette hypothèse-là, parce que... il y a une canalisation qui se ferait avec les réseaux officiels, notamment à travers les douanes officielles, mais il y a un risque avec une frontière de 6000 km que beaucoup de gens rentreraient effectivement maintenant de manière illégale. Encore plus importante parce que il y a beaucoup de gens qui sont sans papiers ou qui savent très bien qu'en arrivant au poste douanier, n'ayant pas les papiers pour rentrer, se feraient refouler. Alors, je suis d'accord que c'est une idée qui est intéressante, mais j'ai un doute. Compte tenu de la population migrante actuellement qu'on voit en Amérique du Sud et centrale, c'est pas tous des gens qui vivent aux États-Unis. Ceux qui vivent aux États-Unis qui sont effectivement dans des trajectoires plus officielles, peut-être seraient davantage canalisés vers les douanes officielles. Mais je pense par exemple aux Nigériens qu'on parlait tout à l'heure, des gens du Nigeria qui arrivent ici sans papier, savent très bien qu'ils se feraient refouler à la frontière ce faisant. Et à ce moment-là, ça serait pas juste le chemin Roxham, ça serait n'importe où entre les postes douaniers parce qu'ils voudraient rentrer au Canada.
Okay, alors, ça enlèverait de la pression au Québec parce que là, c'est tout le Québec qui supporte lui seul l'arrivée massive de réfugiés.
J'ai l'impression
que... c'est sûr qu'il n'y a pas de bon sens.
Il y a eu certaines discussions avec le gouvernement fédéral, le gouvernement américain. Vous savez qu'il y a eu des rumeurs à peine une semaine et demie. Là. Moi, j'étais à Toronto à l'époque. Des gens de CBC m'ont appelé, m'ont dit, êtes-vous capable de confirmer ça? Et encore la semaine passée, pendant la conférence de presse, on a nié qu'il y avait eu des discussions comme telles. Moi, je crois personnellement, c'est mon avis bien personnel, là, j'engage personne là-dedans, qu'il y a eu des discussions, mais présentement, compte tenu de la politique américaine, la ligne dure demeure la même, puis on laisse les choses telles quelles. Il y a des intérêts économiques, on est toujours en négociation avec
l'ALENA. Je pense que c'est un lien, c'est clair, là. On veut pas froisser les Américains, Maître Enfield. Je sais que vous devez nous quitter. De quelle façon on pourrait... Vous suggériez là, de dire, OK, temporairement, on va suspendre l'entente des tiers pays là, qui nous oblige un peu à accepter tout le monde. Il faudrait une véritable volonté politique pour le faire.
Absolument, parce que envoyer, comme je le disais plus tôt, un ministre au Nigeria, envoyer deux ministres, comme on a vu il y a quelques mois du côté américain,
ça ne réglera pas. Il avait envoyé un député en Floride.
Pablo Rodriguez. Ouais,
puis il l'a envoyé quasiment en novembre, mais on dit, regardez, ça a fonctionné. Ben voyons, on était rendu à la fin novembre.
Ouais.
On voit que ça fonctionne pas. Il y a rien qui est fait pour les entrées irrégulières et cette question-là devrait être adressée et des décisions devront être prises. Je veux dire, on a beau envoyer du monde au Nigeria, ça ne réglera pas la situation qu'on vit présentement et je ne comprends pas. Et c'est pas juste Stéphane Hinfield qui le dit, mais plusieurs ONG qui travaillent sur le terrain le disent. Suspendons pour une période, analysons la situation et prenons les décisions qui s'imposent. Et les ressources humaines, c'est beau d'ajouter des commissaires, ça prend d'autres agents, ça va prendre du monde pour pouvoir gérer ces dossiers-là. Même si on ferme définitivement la frontière aujourd'hui, les délais maintenant pour être entendus, c'est plus de 2 ans, alors que le règlement prévoit un délai de 60 jours.
Ils font quoi ce monde-là? Ils font quoi ces gens-là pendant 2 ans?
Ils attendent d'obtenir un permis de travail. Ouais. On a mis l'accent pour justement délivrer plus rapidement le permis de travail. Mais il faut savoir que certains pays, ce qu'on appelle les pays d'origine désignés, n'ont pas le droit de faire une demande de permis de travail au Canada avant 6 mois. Mmh. Alors, pendant cette période-là, on les force à avoir recours à l'aide sociale. Alors, c'est complètement absurde ce qui se passe présentement. Et tout le monde est conscient, sauf les gens à Ottawa.
Et pendant ce temps-là, tu as le temps de faire des bébés. Puis à partir du moment où tu as un bébé en sol canadien, ça devient un Canadien.
Puis la crise du Nigeria démontre à quel point de la vulnérabilité de tout le système. Parce qu'on ne les attendait pas, les agents, moi, que je représente, on était tous en attente des demandeurs qui étaient sous les fameux permis de Obama, les TPS, TPS. Ouais. C'est cette clientèle-là, nous, qu'on attendait. Et quand est arrivé le temps de part, l'explosion, ça, qui venait toute du Nigeria. On ne s'attendait pas à ça du tout.
Maître Hinfield, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Maître Stéphane Hinfield est avocat spécialisé en immigration. On va s'arrêter ici. Il y a Anthony qui m'écrit « Les vrais réfugiés sont ceux qui restent dans leur pays car ils n'ont pas d'argent, eux, pour s'expatrier et payer des passeurs. » 514-790-9850 sans frais 1-866-790-9850. On prend vos commentaires tout de suite après. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour gérer la crise des réfugiés sur le chemin Roxham? À tout de suite, tout le monde. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée pour essayer de gérer comme du monde cette crise de réfugiés illégaux, irréguliers? On le dit comme on veut, là. L'important, c'est qu'il y a une brèche immense au chemin Roxham et qu'aucun gouvernement, en tout cas les fédéraux, semblent pas vouloir régler ça à court terme ou semblent mal s'y prendre. Comment fait-on? Les douaniers, représentés ici par Jean-Pierre Fortin, demandent des ressources depuis des mois, là. On t'avait de dire quelques années. C'est ça, hein?
Oui.
Il y en a pas plus. J'aimerais qu'on parle à Réjean, si vous me permettez, avant. Bonjour, Réjean, votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour. Moi, je suis en train de... j'ai commencé à faire la démarche pour ramener 3 danseurs à Cuba, de Cuba, pour le Festival Cuba de Saint-Sauveur.
Oui.
J'ai descendu à 3-4 reprises à Cuba, au centre de Bayamo, pour avoir les danseurs professionnels. On a toutes les autorisations, on les a eues. Finalement, je fais une demande de visa pour les 3 danseurs, et je viens de recevoir vendredi soir, comme quoi, que les 3 visas sont refusés. Pour les 3 danseurs.
Parce que, pourquoi? Pour quelle
raison? Aucune raison valable, aucune raison. C'est marqué refus, et puis ça finit là. Et puis nous, notre programmation, on va être tous chambardés à cause de ça. Et puis on a fait des démarches. Ça fait un an et demi que je fais des démarches pour avoir 3 danseurs qui viennent professionnellement. Il y en a qui ont une maîtrise, puis les 2 autres qui ont 2 bacs, qui sont des danseurs de haut niveau. On a fait des démarches, on a réussi d'avoir 3 semaines qui viennent s'intégrer à notre programmation. Et puis, vendredi soir, je vais recevoir un refus comme quoi que les 3 danseurs ne peuvent pas rentrer ici au Canada.
C'est des visas de travail ou des visas de touristes qui souhaitaient?
Moitié touristes, c'est des visas de touristes à faire parce qu'ils viennent danser bénévolement en plus. J'ai réussi à recevoir par l'ambassade cubaine de Montréal comme quoi ils peuvent venir danser gratuitement ici pour nous. Nous, on défrayait juste les frais de billets d'avion, d'hébergement, ainsi de suite. Et puis, on a reçu un refus vendredi soir, comme quoi ils ne peuvent pas venir.
Ouais.
Fait qu'on a fait des démarches depuis un an et demi, puis ça tombe à zéro. Mm. C'est où ce que je pensais qu'on n'aurait jamais eu de problème? C'est bien au Canada. Mais c'est le contraire. Tout ce côté de Cuba, tout a été bien. On a eu les passeports. Tout était merveilleusement bien.
Donc là, vous comprenez pas.
On arrive sur le jeu canadien, on a un refus. Puis là, on regarde de l'autre côté, c'est 2 poids, 2 mesures. De l'autre côté, on voit plein de monde qui rentre comme si rien n'était.
Ouais.
te comprendre, je ne comprends rien dans la procédure du côté d'Immigration Canada. Je ne comprends absolument rien.
Merci de votre témoignage, Réjean. Stéphanie est une ancienne douanière, si je comprends bien, Stéphanie. Bonjour.
Agent d'immigration oui. Pour Immigration Canada. Ouais.
Bonjour, Stéphanie. Pouvez-vous nous éclairer un peu?
En fait, en tant qu'agent d'immigration, moi, ce que je trouvais incompréhensible, c'est que s'il y a un Canadien ou en tout cas, peu importe, une personne qui part du Canada puis qui essaie d'entrer aux États-Unis pour solliciter le statut de réfugié,
ouais.
Moi, ce que je comprends, on me disait que de l'autre côté, une personne qui demande le statut de réfugié est immédiatement incarcérée ou en tout cas, elle est prise en détention, si on veut, même que ce soit temporaire ou pas, est en détention immédiatement. Et il semblerait que la décision est rendue rapidement, genre en 2 semaines. Écoute, là, moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que des fois, les Américains, ils nous regardent et ils trouvent ça drôle. Ils nous envoient les gens. Nous, ça nous prend 2 ans. C'est long analyser un dossier, là,
ouais.
Un dossier de réfugiés. Les agents ils vivent beaucoup de détresse. Moi, je fais beaucoup d'empathie pour tous ceux qui sont à l'immigration, tous les agents douaniers ces temps-ci, parce que, tu sais, les procédures ne sont pas faciles et... parfois, on voit des injustices, des gens qui sont vraiment des vrais demandeurs de réfugiés, des gens pour qui
ouais.
La vie est réellement en danger.
Voilà.
Mais il y en a, tu sais, où tu les vois rentrer là, aux douanes avec, mettons, à Roxane, en grosse voiture de luxe. Il faut se prononcer sur pas seulement ce qu'on voit, mais tout l'historique. Il y a une ligne de dénonciation aussi qui existe hein, à Immigration Canada. Il faut que les gens qui sont réfugiés, ou en tout cas qui sont rentrés ici, qui savent qu'une personne est, tu sais, peut-être un tueur là, dans leur village ou dans leur pays, il faut qu'ils le dénoncent aussi pour aider l'immigration à faire des meilleurs choix. Comprenez? Ouais,
tout à fait, parce que quand on... Visiblement, merci beaucoup Stéphanie, Jean-Pierre Fortin, visiblement, vous n'avez pas les moyens de savoir quel est le background de la personne.
On a les moyens jusqu'aux États-Unis.
Ouais. C'est... Non, mais donc, des Nigériens qui ouais. arrivent, là. On ne sait pas de quel bord il était au Niger.
Exactement.
Il était-tu avec Boko Haram
exactement.
Ou il était contre Boko Haram?
Puis ça, c'est une pièce qui est importante par rapport à l'enquête de sécurité qu'on aimerait avoir, les agents.
Qui prend 2 ans?
Oui. Qui prend du temps? Oui, oui. Quand on s'en va à Interpol, c'est pas tous les dossiers. Non, mais ce que Stéphanie vient de dire, là, non, là, c'est exactement ce que j'entends, moi, sur le terrain. Je la remercie pour son courage d'avoir appelé ce matin. Mais chose certaine, c'est la réalité. Une des choses qu'on a demandé, nous, puis j'en parlais à François avant d'entrer en onde, et on a fait la suggestion l'année dernière, qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis pour ouais. répondre à la question, pourquoi pas emmener les gens directement qui passent au chemin Roxham et organiser un genre de cellule à la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu plutôt que les entasser à la frontière de la colle où on va arriver dans la période de pointe en plein milieu de l'été.
Là, on va-tu avoir des tentes?
Il va y avoir des tentes. Ça va être cauchemardesque.
Un camp de réfugiés. On veut pas ça chez nous. Cette image-là n'est pas plus belle. Là. Moi, j'en ai vécu beaucoup.
Tout.
J'ai visité beaucoup de camps de réfugiés. Là. En Afrique, notamment, c'est épouvantable, les conditions de vie là-dedans. Là.
Base militaire, il y a des services d'infirmerie, il y a des cafétérias, il y a des chambres.
Ils seraient mieux traités.
Ils seraient mieux traités, plus sécuritairement. Et rappelez-vous, là, quand le gouvernement libéral en a accueilli là, le lendemain de leur élection, à peu près 25 000, ces gens-là étaient prêts des douaniers. Toutes les enquêtes de sécurité avaient été faites. Déjà là, à l'époque, moi, j'étais sceptique à savoir que c'était pour fonctionner. Et ça a bien fonctionné. Je dois admettre ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est carrément désorganisé. C'est pas du tout la même chose.
Et là, François Audet, vous me disiez tout à l'heure, il va y en avoir probablement 50 000, selon les calculs qu'on peut faire.
Bien, la projection actuelle, au rythme où vont les choses, des données qu'on a tant de la douane que des perspectives des migrants aux États-Unis, même en Amérique centrale, tout porte à croire qu'on atteindra un nouveau record là, entre 40 et 50 000. Là. Donc, c'est,
évidemment, réfugiés c'est, légaux cette année.
Réfugiés à la frontière. Là, de migrants, en fait, qui veulent demander des demandes d'asile. Alors, qui demandent effectivement d'être reçus ici à titre de réfugiés. Donc, et en grande majorité, si la tendance se maintient, selon les données qu'on a, des personnes qui viennent du Nigeria, un peu d'Amérique centrale, Salvador également.
Puis attendez, si les
50 000.
Puis attendez, si les communautés se sentent menacées qui vivent aux États-Unis, on en a seulement une fraction des... regardez, El Salvador, ils sont 195 000 aux États-Unis. La minute qu'ils vont se sentir menacés, ils ont 2 choix, ces gens-là. Ou ils retournent dans leur pays d'origine, vont être déportés par les Américains qui ne renouvelleront pas leur permis, ou ils vont prendre leur chance de venir au Canada et de tenter de venir du côté canadien. Encore une fois, là, les agents que je représente ne se positionnent pas vraiment sur l'échiquier, je vous dirais, de l'opinion. Nous, on dit au gouvernement, donnez-nous les ressources pour qu'on puisse faire un travail intègre et être capable d'assurer la sécurité de ces gens-là, comme tu disais, Isabelle.
On revient tout de suite après. 514-790-9850 pour nous dire si vous avez une solution. Vous, qu'est-ce qu'on fait pour gérer ce flot de réfugiés qui nous arrive en passant par le Boisé au Chemin-Roxham? On a Lucien, bonjour avec nous. Est-ce que vous avez une suggestion, Lucien, pour gérer la crise des réfugiés?
Bonjour Isabelle. Écoutez, j'en ai tellement gros sur le cœur, je vous fais une histoire rapide pour pas mélanger mes idées, mais je suis en couple avec une Cubaine depuis 4 ans.
Ouais.
Ça fait près de 2 ans que nous sommes mariés. Il y a plus de 18 mois qui se sont écoulés pour les processus d'immigration. Ouais. Elle a reçu son certificat de sélection du Québec et depuis 7 ans, on a cessé de me demander des photos en format PDF, des courriels. J'en ai envoyé au-dessus de 500. Et la semaine dernière, ils sont revenus encore avec la même histoire.
Ouais, pour prouver que vous êtes bel et bien un couple, pour prouver que c'est pas arrangé, que le gars des vues, pour prouver tout ça, là, pour prouver. Bon, ça, on peut comprendre. En même temps, là, on va vous dire, ah ben là, c'est pas la même affaire. C'est pas la même.
C'est pas la même
dossier d'immigration. C'est ça qu'on dit là. En même
Mais ils sont dépassés. Ils n'ont pas les moyens. Ils ont pas. Ils ne peuvent traiter tous ces dossiers, ce qui donne des délais partout. Autant pour les réfugiés, autant que pour les gens qui entrent illégalement au chemin Roxham, autant que pour les gens qui sont en immigration régulière. Ils sont dépassés par les événements puis ne peuvent plus suivre.
Ouais. Ah ouais, je comprends tout à fait votre frustration. Jean-Pierre Fortin, là-dessus.
Dépassé, Lucien a raison. C'est carrément ça. Il l'exprime. Et les agents que je représente le sont également. Et anticipent un été infernal où on va avoir l'air quasiment d'un camp de réfugiés qu'on va ériger directement à plein milieu de l'été.
On prévoit qu'il y a plus de 700 personnes à peu près.
720. On avait une capacité de 200. On va l'augmenter.
Vous voulez dire à la frontière.
À la frontière. Merci pour la précision. Mm-hmm. Où on va pouvoir héberger ces gens-là de façon temporaire.
Et pourquoi on le fait là? Pourquoi on les amène pas à Saint-Jean, ce que vous proposiez?
Parce que sans doute l'idée devient nous et non des politiciens. La solution, c'est ça. C'est la solution, à l'époque, on pourrait travailler en collégialité avec la GRC, Service d'immigration, douane.
Les
forces armées. Toute la question de la santé. C'est un volet aussi. Présentement, là, quand on va entasser ces gens-là, là, on a eu certaines expériences l'été dernier dans des endroits qui vont être plus ou moins.
Probablement que leur hypothèse, là, même si on peut dire que c'est un peu idiot, c'est d'envoyer une image de « on veut pas qu'ils s'installent, on les laisse tout proche de la frontière pour pas qu'ils aient l'impression qu'ils sont vraiment pris en charge puis amenés dans le système et tout. » Donc, on leur dit, peut-être pour les décourager, mais c'est ridicule puisqu'on sait que de toute façon, ils peuvent pas être retournés puisque les Américains, eux,
exactement.
Comment ils les traitent, les Américains? Dites-le au public.
Ils retournent. Écoutez, une petite anecdote qu'on parlait, Isabelle et moi, de façon en dehors des ondes. Ce qui se passe, on voit des phénomènes, des fois, de certaines communautés qui sont rentrées l'été dernier, passé l'hiver au Québec. Et présentement, cette même communauté-là tente de retourner aux États-Unis par groupe des fois de 10, de 15, mais immédiatement, côté américain, ils sont interceptés.
Là, vous parlez des Haïtiens, entre autres?
Oui, il y a certains groupes, puis on en intercepte à l'occasion et on les retourne subito presto parce que ces gens-là sont
en
attente.
Les Américains ne les prennent pas, là?
Non, pas du tout. On y les retourne. Ils sont en attente qu'un commissaire statue sur leur demande et en attendant, bon, on les refoule aux États-Unis.
Fait que nous, on n'est pas capable de faire ce que les Américains font.
Non.
Fait que c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un manque de courage politique? C'est un manque de colonne? On a peur de ne pas être fin?
En fait, différentes choses.
François Audet?
Oui, je pense que c'est effectivement des contextes politiques très différents, dans le sens où, pour l'instant, le gouvernement libéral...
Mais c'est les mêmes personnes! Deux façons différentes de gérer les mêmes personnes.
Pour l'instant, le gouvernement libéral est depuis l'arrivée de Trudeau particulièrement, on se souviendra de son message sur Twitter où il montrait avec beaucoup d'ouverture et d'empathie la possibilité des gens qui sont victimes de la guerre de venir au Canada. Je pense que son message a été très bien entendu. Et c'est dur d'avoir un effet scientifique causal en disant oui, c'est vraiment à cause de ça qu'on voit le phénomène actuel. Mais c'est sûr que ça n'a pas aidé. Le message a été entendu.
J'ai Qatar qui m'écrit. Elle dit, moi, je suis immigrante et je vous cache pas que je me sens lésée en ce moment car mon mari et moi avons présenté des demandes, payé des frais, attendu le délai de traitement pour arriver ici. Ça a été très, très long. D'autres arrivent par la frontière et on les reçoit. Je comprends que certains fuient des conditions de vie intenables, mais c'est quand même inéquitable à mes yeux. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'immigrants qui vivent ça au Québec, qui vivent cette situation-là d'injustice. Fait qu'il y a le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois ont la responsabilité de montrer aux Canadiens, aux Québécois, immigrants ou non, qu'il y a une justice pour tous. Sinon, ça ne marche pas. Pourquoi on a des lois d'immigration?
On est d'accord. Et étant donné le phénomène migratoire est là pour rester, il faut en effet qu'on ait un débat social clair au Canada, à savoir quelle est notre politique migratoire, qu'est-ce qu'on veut comme pays, comme accueil, et que ce soit ce message-là qui soit entendu internationalement et qu'on ne le fasse pas à la pièce au jour le jour ou en fonction des gens qui débarquent ici.
Merci beaucoup, François Audet, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal et de l'UQAM et directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Jean-Pierre Fortin, gros été en perspective, mais on aura l'occasion de se reparler. Vous êtes président national du syndicat des douanes et de l'immigration. Merci bien d'avoir été là tous les deux.